Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, d'échanges et de débats. Et ce soir, on ira notamment faire un tour en montagne. Les stations de ski pourront-elles ouvrir pour les vacances de fin d'année? L'inquiétude commence à monter. Des négociations sont en cours, avec Matignon notamment. Pour de nombreux domaines, il en va tout simplement de leur survie. 120 000 saisonniers sont en train d'être recrutés, mais pourront-ils travailler? On posera la question à Dominique Marcel, le PDG de la Compagnie des Alpes. On évoquera également avec les grandes voix à 18h30 la nouvelle affaire Mila. La jeune femme a une nouvelle fois été prise pour cible et menacée de mort pour avoir critiqué l'islam. Et puis 19h15 dans le Club des Idées, on vous dira tout ce soir sur les secrets inavouables d'Amazon. Est-il vraiment l'ennemi public numéro 1 que l'on nous présente? Faut-il boycotter la plateforme pour préserver les petits commerces? Amazon, c'est plus de 15 000 emplois en France en CDI, mais le groupe en détruirait presque autant si ce n'est plus, disent certains spécialistes. On en parle donc ce soir dans le Club des Idées avec nos invités. Mais d'abord le journal avec Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Le vaccin nécessite d'être conservé dans des conditions beaucoup plus accessibles que le vaccin de Pfizer, à moins 20 degrés, ce qui sont des conditions beaucoup plus faciles.
Et après Pfizer, un deuxième labo, donc l'américain Moderna, annonce un vaccin efficace à 94,5%. Pfizer en revendiquait 90%. Avantage de Moderna, sa facilité de conservation.
Et à la tête de Moderna, un Marseillais de 47 ans qui, avant tout le monde, a été convaincu que le virus de Wuhan allait devenir une pandémie.
La France devrait franchir ce soir la barre des 2 millions de cas de contamination. Malgré tout, les derniers chiffres attestent d'une stabilisation de la situation. Nous avons passé un pic, dit le ministre de la Santé.
La Suède, longtemps considérée, vous le savez, comme laxiste en Europe, serre la vis à son tour. Pas de sport, pas de dîner, pas de fête, exhorte le Premier ministre.
L'ouverture aujourd'hui du procès de Jonathan Daval pour le meurtre de sa femme Alexia. Oui, je l'ai tué et je l'ai tué seul, a-t-il reconnu en ce premier jour.
Et puis un premier abandon sur le Vendée Globe, celui de Nicolas Troussel, son bateau volant a dématé.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en nette hausse de 1,70% à 5471 points.
Notre rayon de soleil du soir, Anissa, qui nous a rejoint.
Bonsoir,
bonsoir et qui nous annonce le retour de la chaleur et du soleil demain,
ouais,
formidable.
Ça y est, après ce dimanche bien gris, bien pluvieux et très agité à l'ouest, après ce lundi mitigé, ça y est, demain, le soleil reprend les commandes. Attention quand même aux nombreux brouillards demain matin, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et dans la course au vaccin contre le coronavirus, nous avons donc désormais au moins deux candidats sérieux.
Oui, après Pfizer et BioNTech, c'est le laboratoire américain Moderna qui, à son tour, fait état de résultats très prometteurs lors de ses essais cliniques, Ève Roger.
Oui, 30 000 volontaires pour cette phase ultime avant l'autorisation officielle. À la moitié d'entre eux, on a injecté deux doses de vaccin, à l'autre moitié, deux doses de placebo et près de 95% d'efficacité. Ça veut dire que le groupe vacciné a compté 10 fois moins de malades que le groupe non vacciné, c'est énorme. Alors comme pour Pfizer et son allié BioNTech, la technologie utilisée par Moderna est celle tout à fait inédite de l'ARN messager, c'est-à-dire injecter des bouts d'instructions génétiques qui vont ordonner aux cellules de fabriquer des anticorps. C'est plus facile à fabriquer à grande échelle que la technique traditionnelle des vaccins, mais cet ARN est aussi plus fragile, plus instable, ce qui explique sa conservation à très basse température. Sauf que là, Moderna fait mieux que Pfizer, explique Morgan Bomsel, spécialiste des vaccins au CNRS.
Le mode de production du vaccin est visiblement différent, puisque dans ce vaccin de Moderna, le vaccin nécessite d'être conservé dans des conditions beaucoup plus accessibles que le vaccin de Pfizer, à moins 20 degrés, ce qui sont des conditions beaucoup plus facile que les moins 80 degrés nécessités pour la conservation du vaccin de Pfizer.
Autre différence, Moderna communique sur les effets secondaires, contrairement à Pfizer. Après la seconde injection, 9 à 10% des volontaires ont ressenti de la fatigue, des courbatures ou constaté une rougeur autour du point d'injection. Mais les deux sociétés ne sont toujours pas en mesure de dire combien de temps dure l'immunité constatée.
Merci Ève Roger, chef du service société d'Europe 1.
Et figurez-vous que ce futur vaccin, on le doit à un Français. Et oui, le patron de Moderna est marseillais. Et alors que le virus venait tout juste de faire son apparition en Chine, eh bien il a été carrément visionnaire, Élise Danjon.
Et oui, c'est bien simple. En janvier dernier, Stéphane Bancel savait déjà qu'il s'agirait d'une pandémie sans précédent. Un scénario qu'il avait d'ailleurs imaginé bien avant le coronavirus et qu'il projetait de simuler dans le cadre d'un projet mené par Moderna. Vous l'aurez compris, Stéphane Bancel a le compas dans l'œil lorsqu'il devient le patron de Moderna en 2011. La biotech ne pèse pas lourd, mais il y croit. Alors il lève beaucoup d'argent, au total 5 milliards de dollars en 10 ans. Un comportement agressif et déterminé qui va séduire les États-Unis où il s'installe, jusqu'à Donald Trump, qui verra son tempérament à l'œuvre lors d'une réunion de crise Covid-19. Alors que tous ses confrères parlent d'un vaccin sous plusieurs années, le Frenchie promet ce sera d'ici quelques mois pour Moderna. Alors si ça fonctionne, ce sera le premier produit commercialisé par la biotech, mais Stéphane Bancel voit déjà beaucoup plus loin. Il travaille en parallèle à la conception d'une dizaine d'autres produits.
Élise Dangean est notée que Stéphane Bancel sera l'invité demain matin sur Europe 1 de Mathieu Béliard à 7h40.
Dans l'attente d'un vaccin efficace donc, 18 jours après l'entrée en vigueur du confinement, des chiffres encourageants en France.
Oui, une toute petite note d'espoir communiquée par Olivier Véran qui était en déplacement aujourd'hui à Lyon où le ministre de la Santé assistait au transfert de patients vers un hôpital de La Rochelle.
À l'heure à laquelle je vous parle, nous sommes au pic de patients admis en réanimation et au pic de patients admis à l'hôpital. Il y a quasiment 5000 malades du Covid dans les réanimations françaises, auxquels il faut ajouter environ 3000 malades non-Covid qui sont également dans les réas, ce qui veut dire qu'on est presque à 8000 malades aujourd'hui dans les réanimations françaises, alors qu'à la base, nous avions 5000 lits. Donc la pression sanitaire hospitalière, elle est très forte, donc il faut la faire baisser. Là, nous sommes, j'avais parlé de frémissement il y a quelques jours, là j'ai parlé du fait que nous sommes sur une phase de reprise de contrôle, où nous faisons reculer progressivement l'épidémie. Enfin, tant qu'elle est à ce niveau-là, elle peut repartir. Donc il ne faut pas s'arrêter. C'est-à-dire, si demain les Français disent « c'est bon, on arrête, on en a marre » ou « l'épidémie repartirait ». Les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Donc il faut, dans la durée, être encore vigilant et actif. Et ensuite, on pourra discuter du déconfinement.
Un peu d'espoir donc dans ces propos d'Olivier Véran, même s'il redit bien aux Français que la suite est entre leurs mains, ne pas relâcher, alors que tous aspirent évidemment à retrouver une vie normale. En particulier, on pense aux commerçants qui partout en France poursuivent leur mobilisation avec des opérations coup de poing, comme ce matin à Perpignan, où plusieurs centaines d'entre eux se sont rassemblés pour une matinée funèbre.
Oui, opération similaire d'ailleurs à Lyon cet après-midi, alors que certaines informations laissent penser que les restaurants pourraient rester fermés jusqu'à la mi-janvier. Même si cela n'est pas confirmé pour l'instant, le sujet hautement sensible fait l'objet de nombreuses réunions. On y reviendra dans votre journal, Isabelle, de 19h.
Et concernant la demande cette fois des catholiques de pouvoir reprendre les messes, eh bien, elles ont été reçues ce soir par le Premier ministre et eh bien, pas de reprise, au moins jusqu'au 1er décembre et seulement en fonction des conditions sanitaires. Et si on entend souvent dire en France que le gouvernement gère mal la situation, eh bien, il semblerait que nos voisins ne fassent pas beaucoup mieux. Partout, on tâtonne à la recherche de la meilleure solution.
De nouvelles restrictions sont attendues ce soir en Allemagne. L'Italie, quant à elle, a dépassé le million de cas de contamination.
Quant à la Suède, qui faisait jusque-là, vous le savez, un peu bande à part en imposant peu de restrictions, eh bien là aussi, les temps changent. Johanna Chabas, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Stockholm. Pour la première fois, Johanna, depuis le début de cette pandémie, les Suédois se voient imposer une mesure très stricte.
Oui, pour la toute première fois depuis le début de l'épidémie, la Suède limite les rassemblements publics à 8 personnes. Jusque-là, la jauge était fixée entre 50 et 300 personnes selon les cas. Une mesure très intrusive d'après le Premier ministre, mais nécessaire pour faire baisser le nombre de cas Covid. Les Suédois à qui j'ai parlé l'acceptent plutôt bien, comme Liv, 15 ans, qui voit surtout un moyen de contrôler sa génération.
Nous les jeunes, on veut voir nos amis, on veut faire la fête. Mais je pense que ça va créer une prise de conscience. La situation est grave maintenant.
Parce qu'effectivement, les derniers chiffres sont sans appel, 6000 nouveaux cas et 42 décès en 24 heures. Alors cette limitation de 8 personnes ne touche que l'espace public. Les restaurants pourront toujours accueillir plus de monde, ce qui rend Mathias dubitatif.
Ça fait un peu bizarre de voir qu'on est limité à 8 personnes, mais que les restaurants restent ouverts. Je ne suis pas sûr de la cohérence de cette interdiction.
Pour Sophia, cette mesure est en fait plutôt un aveu d'échec de la part du gouvernement.
Je pense qu'ils se rendent compte que leur tactique ne fonctionne pas. Et qu'ils doivent en faire plus qu'avant parce que visiblement ça ne marche pas.
La limitation doit entrer en vigueur mardi prochain et durer un mois.
Johanna Chabas, envoyée spéciale d'Europe 1 à Stockholm en Suède.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h09, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. On s'intéresse maintenant au procès de Jonathan Daval. 3 ans après le meurtre très médiatisé, de sa femme Alexia, il comparaît depuis aujourd'hui devant la cour d'assises de la Haute-Saône pour répondre de ce crime.
Oui, un crime qu'il reconnaît avoir commis et avoir commis seul. Des aveux après avoir multiplié, vous le savez, les versions et les mensonges durant toute l'enquête. On vous retrouve Arthur Elmbachet, vous suivez ce procès pour Europe 1. Visiblement, cette fois, Jonathan Daval n'a pas l'intention de changer encore de version. Arthur, au terme de cette première journée, en tout cas, cette question, comment a-t-il pu jouer le mari éploré pendant 3 mois avant qu'il ne soit mis en cause par les enquêteurs ?
C'est vrai, Isabelle, que gendarme après gendarme à la barre, d'abord le directeur d'enquête, puis les militaires de terrain, au terme des auditions de cet après-midi, la question se pose. Ce qui est frappant, c'est que dès les toutes premières auditions, Jonathan Daval se livre beaucoup et donne aux enquêteurs des éléments qui, on se le dit après coup, évidemment, auraient peut-être dû les mettre dès le début sur la piste Jonathan Daval. Déjà, au moment où il est dans la voiture des gendarmes, quelques heures seulement après la disparition, pour refaire le trajet du jogging imaginaire d'Alexia, il part de sa vie de couple catastrophique, de son incapacité à satisfaire sa femme sur le plan sexuel, les reproches, les insultes. Il montre aussi les griffures, les morsures sur ses bras, stigmates de la scène du meurtre la veille. C'est le petit poussé, Jonathan Daval, dit son avocat. Il laisse des traces. Autre exemple, confirmé à la barre il y a quelques minutes par l'ex-patron de l'accusé, il ne pouvait pas ne pas savoir qu'il y avait un traceur GPS sur la camionnette qui a servi au transport du corps. Objectif de la défense, faire comprendre que Jonathan Daval aurait pu ne pas mentir, qu'il était prêt à la vérité dès le début, personne n'ayant, si on peut dire, saisi les perches qu'il tendait. Un mot pour finir, Isabelle, sur les parties civiles, les avocats de la famille d'Alexia qui ont insisté aujourd'hui longuement sur l'idée d'un viol post-mortem d'Alexia par Jonathan Daval. Un élément retenu à ce jour par personne, aucun enquêteur, aucun magistrat.
Merci beaucoup Arthur Elmbachet qui suit donc pour Europe 1 ce procès en direct des assises de la Haute-Saône.
Autre procès marquant qui s'est ouvert ce lundi, celui de l'attentat avorté du Thalys.
Le drame avait été évité de justesse grâce à des touristes américains qui étaient intervenus pour maîtriser et désarmer le terroriste. Ce dernier, un Marocain de 31 ans, Ayoub El Kazani, reconnaît avoir eu l'intention de commettre un attentat, un massacre. L'attaque avait été commanditée par le coordinateur des attentats de 2015. On y reviendra dans le journal de 19h.
Ce coup de tonnerre maintenant. En Europe, la Hongrie et la Pologne bloquent l'adoption du budget de l'Union européenne et du fameux plan de relance prévu pour faire face à la crise du Covid à 750 milliards d'euros.
Oui, pour info, cet argent représente par exemple 40% du plan de relance français. En fait, Varsovie et Budapest refusent que l'attribution des fonds européens soit conditionnée au respect de l'état de droit.
Un premier abandon dans le Vendée Globe.
Celui de Nicolas Troussel, à bord de ce que l'on a surnommé, vous savez, les bateaux volants avec leurs foils impressionnants. Alors jusqu'à présent, tout allait bien pour lui. Il filait à pleine vitesse ce matin encore en 7e position dans les Alizés lorsque, tout d'un coup, il a dématé.
Oui, pour lui, l'aventure est donc terminée et forcément, ça fait très mal au moral.
Vendée Globe terminé pour Corum l'épargne. Dématé avant la levée du jour. J'étais tranquillement dans la banette quand j'ai entendu un grand bruit dehors et je suis sorti avec plus de main. C'est la fin de cette aventure Vendée Globe 2020. Toutes ces années pour préparer cette course. Et puis voilà quoi. C'est beaucoup de sacrifices. Je pense qu'on devra revenir hein, pour de prochaines aventures.
Voilà l'amertume, et on le comprend, de Nicolas Troussel. Propos recueillis par Corinne Boulou. Des nouvelles de Jérémy Bayou aussi, qui va lui pouvoir repartir après ses réparations au Sable d'Olonne. Il reprendra la mer demain après-midi vers 15h. Et pour l'instant, c'est toujours le Gallois Alex Thompson qui mène la course.
Bien, merci Isabelle. À tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30 et le journal à 19h. La météo avec Anissa. Alors oui, le soleil revient en partie demain, mais attention quand même aux brouillards matinaux.
Exactement Julien, vous avez tout dit.
Bien.
L'atmosphère est encore assez humide demain. Avec sur les trois quarts du pays, donc des nuages bas et des brouillards parfois épais, donc grande prudence demain. Il n'y a finalement qu'au bord de la Méditerranée et en vallée du Rhône et en Corse que le ciel sera dégagé demain matin. Partout ailleurs, ça sera bien gris. Et dans l'après-midi, vous le disiez, les nuages vont se dissiper, le temps est calme avec un nouvel anticyclone qui nous protège. Alors ça, c'est vraiment pour la saison, c'est assez exceptionnel. Cet anticyclone nous protège du mauvais temps, il permet au soleil de s'installer, surtout sur la moitié sud. où malgré un léger voile nuageux, l'après-midi sera ensoleillé avec toujours du mistral qui faiblit dans l'après-midi. Et au nord de la Loire, et bien là le ciel est un petit peu plus couvert. Le soleil fera cache-cache parfois avec les nuages, mais ça reste sympa. Avec le soleil, la douceur est également de retour. Des températures 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison. Nous aurons 13 à 21 degrés demain matin. Demain après-midi.
Demain après-midi. Il fera cache-cache le soleil, mais ça reste sympa. C'est ça ce que vous avez dit ?
Oui, exactement.
Bon, moi j'aime bien l'intention. Merci beaucoup Anissa. À tout à l'heure, 18h30.
Europe 1, Julien Bugier.
18h15, vous restez avec nous dans quelques secondes. Les Français qu'ils peuvent, pourront-ils partir au ski à Noël? On posera la question à Dominique Marcel, le PDG de la Compagnie des Alpes. Pas tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invité à 18h18, il est le PDG de la Compagnie des Alpes, le leader européen des loisirs qui exploite les plus grandes stations françaises de ski, mais aussi des grands parcs comme Astérix, le Futuroscope ou encore Walibi. Bonsoir Dominique Marcel.
Bonsoir.
Merci de votre présence ce soir dans le studio d'Europe 1. On est à quelques semaines, ça y est, des vacances de Noël. Savez-vous aujourd'hui si vous pourrez ouvrir pour la fin décembre vos stations de ski? Je crois que des discussions ont eu lieu à Matignon. Qu'en est-il ressorti?
Nous avons des discussions, des échanges avec, entre nos différents représentants, nos organismes professionnels, les élus et le gouvernement. Nous avons des échanges. En ce moment, c'est encore trop tôt, c'est encore trop prématuré de dire ce qu'il va en ressortir. Évidemment, la situation sanitaire, elle ne dépend pas de nous. Elle est ce que vous la connaissez, elle est difficile. Et donc, nous sommes lucides. Nous sommes lucides sur la situation sanitaire. Nous savons, y compris dans nos régions, que les hôpitaux sont plutôt assez débordés de cas de Covid.
C'est le cas de la Haute-Savoie et de la Savoie, notamment.
Exactement.
Qui sont actuellement les deux départements français les plus touchés par l'épidémie. Avec 900 tests positifs pour 100 000 habitants, ce qui est absolument colossal.
Absolument, absolument. Alors la situation, d'abord, a le temps d'évoluer. Déjà, on a quelques déclarations aujourd'hui qui tendent à montrer qu'il y aurait peut-être une évolution globale, en tout cas plus favorable, mais il faut bien sûr être prudent. Mais si nous sommes lucides sur la situation, nous ne sommes pas résignés.
Oui.
Je veux être très clair là-dessus, nous ne sommes pas résignés. Nous nous battons pour une ouverture. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu absolument fondamental. Ce n'est pas seulement l'enjeu important, bien sûr, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, pour les Français et les étrangers, d'ailleurs,
oui,
de venir skier.
De l'impact économique, c'est 120 000 saisonniers,
120 000
millions de skieurs rien que pour les Alpes.
Exactement.
Et tout un écosystème.
Exactement.
Les loueurs,
c'est tout un écosystème.
L'hôtellerie, la restauration.
Exactement. Tout le monde est touché. C'est, comme vous l'avez rappelé, à peu près 120 000 personnes qui sont touchées, au-delà de leurs familles. C'est des territoires entiers. C'est un écosystème qui tire souvent une grande partie, voire l'essentiel de ses revenus pendant 4 ou 5 mois de l'année. C'est pour ça que fermé même pendant quelques semaines, ça a un impact majeur quand vous faites votre chiffre d'affaires sur une durée si faible.
Ça génère 11 milliards d'euros d'activité, stations de ski en France, c'est
absolument, 11 milliards d'euros globalement, 2 milliards d'exportations, c'est-à-dire de visiteurs étrangers qui viennent, ce qui n'est pas rien. Donc c'est un écosystème majeur. Et donc nous faisons tout, nous nous battons pour pouvoir être prêts. C'est-à-dire qu'il y a la situation sanitaire.
Dominique Marcel, est-ce qu'une station de ski, c'est comme un magasin? Une fois qu'on a le go pour ouvrir, on peut ouvrir du jour au lendemain?
Alors, ce n'est pas tout à fait un magasin, mais là où vous avez raison, c'est que dans une station de ski, vous avez des exploitants de domaines skiables, vous avez des hébergeurs, vous avez des commerçants, vous avez toute une série d'acteurs.
Mais le domaine, il se prépare, ça se fait pas en 24 heures.
Le domaine se prépare, nous y sommes préparés, mais il faut que l'ensemble de la station, et c'est pour ça que nous travaillons en collectif avec les élus, avec les parties prenantes, avec les hébergeurs, sinon ça n'a pas de sens. Et nous travaillons pour mettre au point, et nous avons déjà mis des protocoles qui nous paraissent tout à fait crédibles.
Alors,
et
c'est... justement, on va y venir dans le détail. Pardon de vous couper,
je vous en prie.
Dominique Marcel. D'abord, je voudrais simplement qu'on revienne sur les déclarations d'Elisabeth Borne, la ministre, qui a indiqué hier qu'il fallait que les stations se préparent à ouvrir. Plutôt positif, vous me direz, en embauchant des saisonniers. Quitte, dit-elle, à les mettre ensuite au chômage partiel. D'abord, est-ce que c'est ce que vous allez faire pour les domaines que vous gérez, vous?
C'est ce que nous avons fait. Nous avons une convention collective professionnelle qui d'ailleurs nous invite à le faire. Nous avons tout un système que je ne vais pas détailler ici. Nous avons envoyé nos promesses d'embauche à l'ensemble de nos saisonniers. En l'occurrence, pour ce qui concerne Noël, c'est plus de 2500 personnes concernées, rien qu'au niveau de la Compagnie des Alpes.
Oui.
Et nous confirmerons ces embauches dans les semaines qui viennent, sauf si, ce qui parfois conduit à retarder les embauches, quand il n'y a pas de neige, par exemple.
Oui,
mais sinon, nous n'avons aucune raison, y compris de par la convention que nous avons signée avec les représentants des salariés, il n'y a aucune raison, nous embaucherons. Et ensuite, s'il n'y a pas d'ouverture ou s'il y a une ouverture différée, nous ferons appel, en effet, à l'activité partielle, comme nous l'avons fait quand on nous a fermé les stations le 15 mars dernier.
Oui, oui, c'est vrai qu'il y a déjà eu la fin de saison dernière qui a été catastrophique,
bien sûr,
qui a coûté très,
très
cher aux exploitants.
Ça s'ajouterait, vous avez raison de le rappeler, ça s'ajouterait à une saison qui a déjà été difficile.
Alors, en cas d'ouverture, tout de suite à Noël, et puis peut-être après en février, vous le souhaitez, j'imagine, quel protocole sanitaire vous pourriez mettre en place pour fonctionner correctement? Est-ce qu'on peut imaginer que les masques soient obligatoires, par exemple, dans les œufs, dans les télécabines? Mais est-ce qu'on pourra respecter, Dominique Marcel, la distanciation dans les œufs?
Vous avez raison. Il y a les protocoles et il y a le respect des protocoles. On peut faire des protocoles, s'ils ne sont pas respectés, ça ne sert à rien. On a fait des protocoles qu'on a fait, encore une fois, je dirais, de manière collective, dans un travail collectif, avec les préfets, avec les élus, avec les pouvoirs publics et l'ensemble des parties prenantes. Ces protocoles, c'est en effet le port du masque dans nos remontées, c'est le port du masque quand on fait la queue, c'est le port du masque partout où c'est nécessaire, bien sûr pas quand on skie, mais on y veillera. C'est les gestes barrières qui doivent être scrupuleusement respectés.
Donc ça, c'est possible d'hygiène à mettre partout. Ça, c'est possible à mettre
ça,
en place.
Ça, ce sera mis en place.
Et dans les restaurants d'altitude, parce que ça aussi,
c'est dans les restaurants d'altitude, si les restaurants peuvent être ouverts, ce que nous souhaitons vivement, il faudra aussi, bien sûr, respecter scrupuleusement les protocoles.
Mais on peut réussir à faire tourner les stations de ski sans les restaurateurs?
Il faudra quand même mieux qu'il y ait des restaurateurs. Ce sera très difficile s'il n'y a pas des restaurateurs. Nous souhaitons évidemment
de
tout cœur.
Mais si c'est à prendre ou à laisser?
Écoutez, on verra. On n'en est pas là. Mais je pense qu'il vaut quand même mieux qu'on ouvre tous. Et le point le plus important, c'est que ces protocoles soient scrupuleusement respectés. C'est pour notre crédibilité. Les protocoles sont bons. Nous allons aussi mettre des centres de dépistage. On a fait sur les tests. On a fait beaucoup d'efforts avec les départements. La Savoie, notamment, a fait un gros effort. Nous sommes prêts à faire un gros effort. D'autres hébergeurs.
Les tests antigéniques qui vont être mis en place, notamment pour les saisonniers. Pour les
collaborateurs et éventuellement, bien sûr, aussi pour les visiteurs. Alors, nous sommes prêts. Nous sommes en ordre de marche.
Vous êtes en ordre de marche. Dominique Marcel, il nous reste quelques instants. C'est vrai qu'on l'évoquait. La chute d'activité avait représenté 20% des recettes en moins la saison passée sur la fin de saison. Vous aviez dû fermer préventivement. On sait que Noël et la saison de Noël, ça représente 25%
de la fréquentation
des ensembles.
Un peu moins pour certains, un peu plus pour d'autres. Voilà. Ça dépend évidemment des stations.
Est-ce qu'il y a demain des domaines qui pourraient faire faillite si on ne parvient pas à rouvrir avant février?
Écoutez, il y aura sans doute notamment les domaines les plus petits, ceux qui sont les moins bien armés pour cette crise, pourraient avoir en effet de très grosses difficultés, c'est évident. Il faudra que de toute façon, si véritablement, ce qu'encore une fois, Dieu ne plaise, il y ait des fermetures prolongées, il faudra que les actionnaires ou les gestionnaires de ces domaines prennent des mesures de soutien. C'est évident, surtout.
Mais c'est envisageable.
C'est envisageable, bien sûr, parce que c'est une condition de la pérennité de ces domaines.
Bien.
Et c'est pour ça que, vous voyez, c'est un enjeu majeur.
C'est un enjeu majeur,
à la fois le ski pour les Français, mais c'est un enjeu économique et social majeur.
Bien sûr, pour un pan entier de notre industrie, de notre économie. Dernière question, Dominique Marcel, pour tous les gens là qui nous écoutent, qui auraient déjà réservé, qui souhaiteraient le faire, qui hésitent. Alors, est-ce que toutes les dépenses seront remboursables?
Alors c'est ça c'est très important par rapport aux années précédentes. Nous avons un système où nous avons tous ensemble, là encore collectivement, j'insiste sur ce collectif, les hébergeurs, les agences immobilières, les distributeurs, nous avons assoupli considérablement les conditions de remboursement, ce qui fait que s'il y a une raison Covid, l'ensemble de nos visiteurs seront remboursés jusqu'à la dernière minute.
Ça, c'est une assurance que vous donnez.
Voilà, exactement.
Bien.
Et c'est pour nous aussi l'assurance. Et nous espérons aussi à pouvoir avoir des réservations à l'inverse, de dernière minute.
Oui.
Comme je dis, même parfois de dernière seconde.
De dernière seconde,
Parce qu'il y a une vraie appétence pour le ski. Nous le sentons, le trafic sur nos sites est très bon. Les gens ont envie de venir. Alors, on ne le fera pas à n'importe quelle condition. On respectera évidemment le contexte sanitaire, ça va de soi.
À quelle échéance
on se bat pour ouvrir nos sites.
À quelle échéance pensez-vous qu'on sera, si les stations seront ouvertes
Je pense qu'il faut attendre peut-être quelques petites semaines, parce qu'il faut quand même... Là, je ne me mets pas à la place des pouvoirs publics, et je sais la difficulté de leur tâche. Il faut voir quelles seront les évolutions. Peut-être un peu après, nous verrons. Mais encore une fois, compte tenu des dispositifs qu'on a mis en place, du last minute, du remboursement, on peut très bien, je ne le souhaite pas, je souhaite qu'on soit fixé le plus tôt possible, mais nous avons
nous sommes mis en marche. Si le Premier ministre nous écoute,
exactement,
la compagnie des Alpes est prête.
Nous sommes prêts et nous sommes en ordre de marche et nous faisons tout pour nous préparer et améliorer encore nos dispositifs.
Merci pour cet échange, Dominique Marcel, ce soir dans le studio d'Europe 1. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1. Julien Bugier.
18h27, dans quelques secondes, le rappel des titres et le débat des grandes voix. On évoquera notamment cette nouvelle affaire Mila qui relance bien évidemment le débat sur le droit au blasphème. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le rappel des titres d'Isabelle Millet, 18h30.
Et 100 euros net par mois d'augmentation pour les professeurs débutants à partir du mois de mai prochain, annonce à l'instant du ministre de l'Éducation. Le ministre de la Santé.
santé appelle, lui, les Français à poursuivre leurs efforts, car le virus n'est pas encore vaincu, même s'il y a des signes d'amélioration. Nous sommes, dit-il, en train de reprendre progressivement le contrôle. La société américaine Moderna annonce à son tour que son vaccin contre le Covid est quasiment opérationnel et qu'il est efficace à 94,5%, c'est-à-dire davantage que celui de Pfizer et BioNTech qui évoquait 90%. Son patron, Stéphane Bancel, le patron de Moderna, sera l'invité de Mathieu Béliard demain matin à 7h40. Les lieux de culte ne rouvriront pas avant le 1er décembre et ce, uniquement en fonction des conditions sanitaires. L'Union européenne, dans une impasse budgétaire, la Hongrie et la Pologne mettent leur veto au budget des 27 et donc au plan de relance de 750 milliards d'euros. Motif, l'une des clauses prévoit d'exclure de ce mécanisme d'aide européen les pays qui, comme la Pologne et la Hongrie, justement, sont accusés de ne pas respecter l'état de droit.
Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure à 19h pour le journal La Météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce le retour du soleil et d'un peu de douceur demain.
Oui, ça fait du bien. Hein. C'est vrai qu'on a eu un week-end un petit peu agité, surtout dimanche.
On vous dira
dimanche.
Ça demain soir. En même
et bien,
temps,
après
ça fait
une
du bien
matinée.
Demain soir.
Oui, demain soir, ça nous fera du bien. Mais rien que de le dire, déjà, c'est bon pour
c'est
le
vrai.
Moral. Après une matinée grise avec un ciel couvert et de nombreux nuages bas, avec des brouillards aussi pas mal, le ciel va se dégager demain. Et dans l'après-midi, sur la moitié sud, il fait beau et doux. Le Mistral faiblit en plus, bonne nouvelle dans la journée. Au nord de la Loire, là, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies, mais ça reste quand même une journée assez agréable dans l'ensemble. Les températures sont douces, vous le disiez, Julien, toujours au-dessus des normales de saison, avec 3 à 12 degrés demain matin. Nous aurons 3 degrés à Grenoble, 9 à Paris, 12 à Brest et 12 à 20 degrés au meilleur de la journée. 12 pour Strasbourg, 14 à Paris et Lille, 18 à Bordeaux et 20 pour Toulon, la maximale.
20 pour Toulon.
Sous le soleil en
sous
plus.
Sous le soleil. Merci Anissa, à tout à l'heure à 19h pour un nouveau Prométhéo.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, le débat des grandes voix du lundi à présent avec ce soir à mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Julien Drey, bonsoir Julien. Et Elsa Conessa, rédactrice en chef finance et marché au journal Les Échos. Bonsoir Elsa, ravie de vous retrouver. Alors ce soir, on évoque ensemble la question du droit au blasphème et de la laïcité qui rebondit et on reparle de la jeune Mila qui avait été, souvenez-vous, prise pour cible après avoir critiqué l'islam sur les réseaux sociaux. Eh bien hier, suite à une nouvelle vidéo dans laquelle elle moque le prophète, elle a reçu des dizaines de menaces de mort. Une enquête a immédiatement été ouverte par le parquet. Et ce matin, comme en écho à cette affaire, Ségolène Royal a dit ceci.
La liberté, c'est pas le droit de dire n'importe quoi, n'importe comment. Je suis pas pour l'interdiction des caricatures. Je ne suis pas pour cautionner, pour dire que les caricatures, c'est bien. Il y a la liberté d'expression, mais il y a le droit qui est là, les tribunaux sont là, pour que quand il y a un dérapage de la liberté d'expression vers l'injure, l'insulte, l'humiliation, c'est-à-dire le manque au pilier de la République qui est la fraternité, à ce moment-là, oui, il y a un rééquilibre.
Ségolène Royal qui avait d'ailleurs dit, en janvier dernier, « Julien Drey, je ne suis pas Mila ». Votre réaction? On est là quand même dans le discours un peu gênant du « bien sûr, on a le droit de caricaturer, on a le droit de faire des caricatures, mais… »
Alors, deux secondes. Si vous permettez, moi j'ai écouté ce qu'elle dit, je m'excuse de le dire pour une fois, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Parce que soit on est pour le droit au blasphème, et dans le droit au blasphème, il y a forcément du blasphème, c'est-à-dire des choses qui dérangent, qui gênent, qui peuvent être, apparaître comme insultants. C'est vrai que si c'est tellement insultant, il y a la loi, mais le droit au blasphème, il implique ça.
Oui.
Le droit au blasphème, il est consubstantiel.
C'était l'objet de ma question.
Voilà, le droit au blasphème, il est consubstantiel à la démocratie. S'il n'y a pas le droit au blasphème, il n'y a pas démocratie, parce que ça veut dire que la religion réussit déjà à faire reculer la démocratie, puisqu'elle impose déjà un état de fait. Donc, on peut ne pas être d'accord avec les caricatures, on peut trouver même qu'elles sont gênantes, blessantes. Et moi, j'ai été caricaturé, des fois, j'avais aussi les boules. Et j'avais envie d'appeler ceux qui avaient dessiné, parce que je trouvais qu'ils m'avaient dessiné de manière un peu trop ronde, si vous permettez l'expression. Bon, mais bon, c'est la vie.
C'était pourtant bien vu.
Merci Charles. Il y a une demi-heure, hein.
Ouais.
Ça veut dire qu'il y aura des balles derrière.
Le Point, titré récemment Charles Villeneuve sur « Mila, une défaite française ». Car c'est vrai que déjà en janvier dernier, on s'était un peu ému du fait que peu de représentants politiques l'aient défendu quand était sortie la première affaire. Et on a un peu le sentiment qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Même si évidemment, le discours a changé. Parce que depuis, il y a eu de nouveaux attentats, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu l'horreur absolue de Samuel Paty. Donc c'est vrai qu'il y a une bienveillance plus importante qu'il y avait en janvier dernier. Mais vous êtes d'accord avec ça? Une défaite française, l'affaire Mila? C'est une Charles question Vinov réfléchit, très difficile. Et fait la moue.
C'est une question très difficile. Julien me guette, alors je vais réfléchir à ce que je vais dire. Moi, je pense que quand une menace, comme celle, évidemment, qui est dirigée contre Mila et ciblée, n'est pas un acte délictuel classique. C'est un acte politique qui s'inscrit dans un champ politique. Ce champ politique, c'est évidemment la série d'attentats que nous venons de vivre. Et ça n'est pas innocent, évidemment. La menace, la réponse à sa provocation, c'est quand même une provocation, parce que, comme le disait à l'instant Julien Drey, un blasphème, c'est évidemment très souvent une provocation. Mais à partir du moment où nous sommes dans le pays où nous sommes, on a le droit au blasphème et on a le droit de dire un certain nombre de choses. Maintenant, est-ce que ce qu'elle a dit tombe bien, si j'ose dire, dans l'état actuel, si vous voulez, dans lequel sont un certain nombre de jeunes radicalisés ? Parce qu'il y a une sorte, et d'ailleurs Marlène Schiappa le sait par des analyses des services de renseignement et des services spécialisés, qu'il y a une sorte d'euphorie qui s'est emparée de ces jeunes radicalisés après les attentats de Conflans et de Nice.
Oui.
Et donc, est-ce qu'on doit attiser complètement ? Moi, je comprends, si vous voulez, la réserve de Ségolène. Je n'irai pas jusqu'à l'approuver, parce que je trouve qu'elle est répétée, elle aussi, et de manière déplaisante.
Bien. En attendant, c'est vrai que c'est elle, la jeune Mila, qui vit cachée, recluse sous protection et qui culpabilise, dit-il, de faire vivre tout ça à ses parents. Alors, elle a aujourd'hui 18 ans et elle disait récemment « Ils ne détruiront pas ma vie, mais ils ont effacé la vie heureuse que j'avais, probablement à tout jamais ». Votre réaction, Elsa, connaît ça ?
Écoutez, moi, sur le fond, je pense qu'effectivement, on est dans un pays où on a le droit de blasphémer. Après, je pense que l'élément nouveau ici, c'est les réseaux sociaux. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais moi, il me semble complètement fou qu'on n'ait pas encore réussi à encadrer, rendre responsables les réseaux sociaux des contenus qu'ils publient. Ils ne sont absolument pas traités comme le sont les organes de presse. Ils sont considérés comme le serait une librairie qui vendrait des livres diffamatoires ou controversés, ou un kiosque qui vendrait des journaux aux idées qui déplaisent. Et c'est vraiment une situation qui pose problème. Et c'est lié d'ailleurs à l'origine même de la création de ces réseaux sociaux, que le législateur américain a voulu protéger à tout prix au nom de la liberté d'expression, parce que c'était les startups du web, il fallait absolument les protéger. Et du coup, en fait, comme il n'y a jamais eu de volonté de les rendre responsables des contenus, l'Europe n'y arrive pas, elle n'y arrivera pas tant que ça ne se fera pas aux États-Unis. Il y a un débat, parce qu'il y a aussi évidemment des contenus haineux qui sont diffusés aux États-Unis, qui sont racistes, etc.
Au-delà de ça, j'en reviens simplement juste sur le fond du sujet. Moi, il y a quelque chose qui m'avait frappé en janvier dernier, c'est que, évidemment, quand Charlie Hebdo publie les caricatures de Mahomet, tout le monde, et à juste titre, trouve qu'ils sont dans leur rôle, parce qu'on a le droit au blasphème en France et la liberté d'expression. Et quand la jeune Mila, en janvier dernier, j'y reviens une nouvelle fois, mais publie cette vidéo sans doute maladroite, où elle prend parti et elle critique une certaine forme de caricature de l'islam, etc., etc., ça ne fait pas consensus dans la classe politique et on refuse de la défendre. Moi, je trouve que c'est ça qui pose question aussi.
Bah, vous avez raison. Non seulement ça ne fait pas consensus dans la classe politique, mais on voit bien qu'il y a une gêne. Il y a une gêne avec l'islam. Et il y a ceux qui vous disent en permanence qu'il ne faut pas provoquer. Et donc, comme il ne faut pas provoquer, il faut que nous reculions. Nous, les laïcs, et ceux qui sont athées aussi. Parce que je voudrais rappeler dans ce pays qu'il y a aussi des gens qui sont athées, qui n'ont rien à faire de la religion. Et ils ont le droit de s'exprimer, ceux-là, non ?
Ouais.
Ils ont le droit d'exister. Et d'ailleurs, justement, on a inventé la laïcité pour permettre à tout le monde d'avoir ce droit. Ce qui s'est passé avec la jeune Mila, c'est qu'il n'y a pas eu la mobilisation qu'il aurait dû avoir, y compris, je pense, notamment, à tous ces réseaux qui sont actifs et très forts, qui sont les réseaux féministes, et qui auraient dû normalement se porter au devant de sa défense. Par ailleurs, ce qu'elle dit est largement discutable, peut-être, mais moi je sais qu'à son âge, j'aurais certainement dit à peu près la même chose.
Bon, voilà. 18h39, on se retrouve dans quelques secondes, on parlera des petits commerces, car ça y est, une lueur d'espoir se dessine, peut-être une réouverture le 27 novembre, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, avec toujours le débat des grandes voix du lundi, Charles Villeneuve, Julien Drey et Elsa Conessa du journal Les Échos. On parle maintenant des petits commerces. Peut-être pourront-ils rouvrir le 27 novembre, c'est en tout cas l'une des hypothèses qui est sur la table, et que pousse d'ailleurs le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Un protocole sanitaire spécifique serait d'ailleurs à l'étude, ce qui permettrait évidemment aux commerçants d'ouvrir pour le vendredi du Black Friday, comme le réclament leurs représentants depuis le début du reconfinement. Et ce matin, c'est Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui a lancé un appel en leur faveur.
Moi, ce que je demande au gouvernement, c'est de ne pas ajouter une nouvelle injustice à celle de leur fermeture, c'est-à-dire d'ouvrir dès le 27 novembre. Parce que vous savez ce que c'est le 27 novembre, c'est le Black Friday. Donc si nous n'ouvrons pas nos petits commerces dès le 27 novembre, vendredi 27 novembre, eh bien il y aura une concurrence qui se fera des commerces en ligne, qui sera une injustice de plus pour ces petits commerces.
Voilà, vous avez des infos peut-être, Elsa Conesa, sur les derniers arbitrages. En tout cas, je sais que Bruno Le Maire, ministre de l'économie, pousse fort pour que l'ouverture ait lieu le 27.
Hein. Oui, il y a vraiment un bras de fer entre Matignon et Bercy sur le sujet. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire tient cette ligne depuis le début. Hein. Il se présente vraiment en défenseur des entreprises et des petits commerces. Mais bon, là, on retrouve toujours cette ligne de crête que le gouvernement doit gérer entre l'économie, la situation sanitaire et puis aussi la pression de consommateurs. Hein, parce que dans le cas des petits commerces et du week-end du 27, il y a vraiment un enjeu aussi de que les gens puissent consommer.
Oui. Ça laisse deux week-ends pour faire ses courses avant les fêtes de fin d'année, avant Noël,
c'est
Charles Villeneuve.
Et
c'est vrai que Bruno Le Maire a dit c'est un week-end qui compte triple le week-end du 27 avec le Black Friday. Donc on réexplique pour tous les gens qui nous écoutent. Mais ça y est, la pratique est bien connue maintenant. Ça vient des États-Unis. Et c'est grosso modo le dernier vendredi après Thanksgiving. Et c'est là où tous les e-commerçants et les commerces aussi physiques pratiquent des soldes absolument incroyables en vue des achats de fin d'année.
Oui, aux États-Unis, c'est assez incroyable. Mais en France, ça l'est moins.
Oh, ça l'est énormément maintenant sur les e-commerçants.
80-90% parfois à New York ou à Miami. Ça va assez loin. Mais c'est normal de toute façon que... c'est séculaire. Le dernier week-end de novembre et le mois de décembre, c'est quand même là où vous faites tous les chiffres d'affaires. Maintenant, j'en parlais justement avant de rentrer dans le studio avec Julien. Il y a quoi, 1 million de commerçants à peu près? C'est ça?
J'ai pas le chiffre
en tête. Il y a 200 000 commerces qui ont aujourd'hui les rideaux fermés en France et qui sont essentiels.
Oui, c'est un électorat politiquement quand même qui est actif et qui peut d'autant plus l'être qu'il l'a été et qui même peut s'apparenter. Il y avait beaucoup d'artisans et de petits commerçants dans les Gilets jaunes, notamment au début. Après, ça s'est un peu calmé, ils se sont un peu retirés.
Oui.
Mais ça rappelle, si vous voulez, les années 50-56 avec ce qu'on a appelé le poujadisme, qui avait débouché sur une cinquantaine de députés à l'Assemblée nationale et qui ensuite avait été récupéré par Jacques Chirac avec la loi Galland. Mais c'est quand même un électorat qui est attiré qui peut être récupéré par le Rassemblement national. Donc le Premier ministre, si je comprends bien, il y a une sorte de différence d'appréciation entre le Premier ministre et le ministre de l'économie. Là, tout à l'heure, je l'ai regardé ce matin vers 10h, quand il a lâché justement que peut-être en fin de semaine, il y allait avoir des mesures beaucoup plus souples. Mais je crois que politiquement et économiquement, il ne faut pas oublier quand même que le centre-ville et dans beaucoup de territoires de villes moyennes, les petits commerçants meurent les uns après les autres au profit évidemment des grandes surfaces. Moi, ce que je regrette aussi, et vous m'aviez posé la question la semaine dernière, c'est qu'on a choisi le tube digestif au détriment de l'esprit. les libraires, finalement, ne sont pas ouverts. Moi, je suis un amateur de librairie. Et c'est vrai que c'est un manque.
Et puis, il y a plein d'éléments qui, depuis, militent pour l'ouverture des petits commerces. Il y a une étude incroyable qui est sortie dans Nature, revue scientifique de référence, il y a quelques jours. On en a parlé avec des médecins ici présents la semaine passée, qui montraient, c'était les premières études épidémiologiques qui étaient menées, secteur d'activité par secteur d'activité et commerçant par commerçant. On y apprenait, évidemment, ça tombe sous le sens, qu'on est moins contaminé chez un libraire que dans un supermarché. Aujourd'hui, les libraires sont fermés et pas les grandes surfaces. Julien.
Non, mais de toute manière, dans ce que nous vivons depuis des semaines et des semaines, nous vivons sur la logique de la peur et de l'interdit. Ce gouvernement aura inventé les deux choses qui sont les plus insupportables. C'est-à-dire l'interdit, c'est systématique. Bon, alors avec une technocratie absurde sur les attestations, je crois qu'on est le seul pays où on n'a pas le droit de sortir à plus d'un kilomètre de chez soi. Donc si vous faites un peu de jogging, vous m'expliquerez si vous n'en avez pas marre de tourner toujours autour du même bâtiment.
C'est voilà.
Moi, je fais pas de jogging, vous avez bien compris. Moi, je suis comme mon ami, je lis. Non, mais je veux dire, c'est ça. Et par ailleurs, sur les petits commerces, on voit bien que c'est stupide. C'est stupide. Par contre, l'argument sur le Black Friday, moi, je suis pas sûr qu'il soit au service des petits commerces, parce que si on ouvre, les grandes surfaces vont ouvrir. toutes les grandes surfaces vont ouvrir, donc les pauvres commerçants, ils vont encore se trouver sous la pression des grandes surfaces qui, elles, vont brader, parce qu'elles elles s'en foutront. Donc, je crois qu'il faudrait rouvrir les petits commerces une bonne fois pour toutes, parce que, par ailleurs, ils ont, la plupart du temps, fait énormément d'efforts. Ils sont capables de comprendre qu'il ne faut pas être à 18 dans le magasin, qu'il faut mettre du gel, etc. Et
il en va de leur survie, surtout, Julien. Donc, il en va de leur survie,
oui,
Julien.
Oui, mais surtout de la pratique sociale.
Oui. 18h47, on se retrouve dans quelques secondes et on continue d'en parler. L'enjeu économique, est-il trop tôt ou non pour déconfiner ? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, dernière partie du débat des grandes voix du lundi, avec ce soir Charles Villeneuve, Julien Drey, Elsa Conessa, rédactrice en chef finance et marché au journal Les Échos. Alors c'est vrai qu'on parle ce soir des petits commerçants qui peut-être voient une lueur d'espoir pour rouvrir leurs établissements à partir du 27 novembre. Une bataille fait rage depuis plusieurs jours maintenant entre Bercy et l'enjeu sanitaire porté par Olivier Véran et le Premier ministre Jean Castex. Est-ce que vous, Elsa Conessa, vous y croyez à ce vent de mécontentement qui pourrait se transformer en révolte des petits commerçants s'ils n'obtiennent pas gain de cause ?
Écoutez, du côté des petits commerçants, il y a toujours un risque. Effectivement, comme vous le disiez, Charles Villeneuve, c'est une population qui peut être sujette à soulèvement politiquement. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a un sondage là, dont on fait état dans le journal de demain, qui montre qu'en fait, les consommateurs aussi commencent à douter. C'est-à-dire que je crois qu'il y a moins de 30% des gens sondés qui estiment que les mesures prises avec les petits commerces sont cohérentes ou claires. Et 60%, plus de 60% d'entre eux pensent qu'en fait, on a favorisé les gros au détriment des petits.
Donc l'opinion et ça publique alimente... est en train de se retourner.
Voilà, et ça alimente cette idée un peu de la théorie du complot, qu'en fait, il y a des lobbies, les lobbies étant Amazon et la grande distribution, au détriment des petits, qui seraient sacrifiés sur l'autel de... on ne sait pas très bien de quoi.
Donc ça
santé,
peut fédérer un mécontentement, ça, si on vous écoute.
En tout cas, ça semble
le faire.
Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais en tout cas, on est quand même dans un contexte où on verse assez volontiers dans le complotisme et que ça devienne un sujet potentiellement utilisable par les milieux complotistes, c'est pas très, très rassurant. Donc, je pense qu'effectivement, tout ça est en plus aggravé par le fait que les Français savent que la crise économique est encore devant nous. Et donc, ça réduit encore l'acceptabilité des mesures.
Avec des mouvements de contestation. Hein. Aujourd'hui, on a vu des manifestations, on en a parlé tout à l'heure dans le journal à 18h avec Isabelle Millet, des manifestations un peu partout en France, à Paris notamment, et des résistants aussi maintenant. Il y a cette jeune femme qui vend des livres que nous avions eu en interview dans SOS Petit Commerce il y a quelques jours, ici même dans le studio d'Europe Soir, qui a décidé, malgré les interdictions, de rester ouverte, car elle dit « si je baisse le rideau, c'est ma mort assurée ». Elle habite à Cannes, cette madame.
Oui, c'est ça. Oui. Tout à fait. Mais on a aussi... Mais moi, je pense que ça chauffe, si vous voulez. Ça chauffe de plus en plus. Et c'est vrai que tout à l'heure, Julien soulignait le fait qu'il y a un manque qui tient aussi à la crainte que nous avons et qui nous habite presque tous, parce que de temps en temps, quand on regarde les chiffres et que le fameux docteur Salmon réapparaît, si vous voulez, au micro, à ce moment-là, on regarde, j'ai l'impression que bon, c'est les pompes funèbres générales qui m'annoncent de toute façon ce qui va se passer. Et du coup, c'est vrai que moi, j'en fais partie. Tout d'un coup, je suis un peu plus attentif au port du masque, aux gestes barrières, si vous voulez, presque j'ai envie de mettre des gants, etc. Et je trouve que ce sentiment grandit de plus en plus. Et c'est d'ailleurs recoupé par le sondage des Échos qui sortira demain sur les consommateurs qui aussi sont pris par ce mouvement. Oui. On est agité par plusieurs sentiments. Et ces sentiments-là font que de toute façon, ça nous paraît interminable et peut-être pas aussi justifié qu'on l'a cru.
Ouais. Et puis, il y a une corporation qui va monter au créneau aussi, c'est les restaurateurs et les hôteliers, parce que eux, pour le coup, ils voient bien qu'il n'y a aucune perspective avant le 15 janvier au bas mot, nous dit-on, et peut-être début février. Julien Drey, ça fait beaucoup de mécontents, ça, à l'approche de la présidentielle à quasiment un an maintenant.
La question est pas tellement de savoir si c'est l'approche de la présidentielle.
Ah, je crois qu'il y a un pays... Si, parce que tout le monde s'accorde à dire que le président ou la présidente qui sera élue en 2022,
non, mais je comprends,
ça se fera à l'aune de la gestion de cette crise,
oui,
quand même.
Bon, moi, je ne suis pas un fan de l'élection présidentielle, au suffrage universel. Je me suis déjà exprimé sur cette question-là. Mais je crois surtout, je suis d'accord avec Charles, je pense que les sondages ne veulent rien dire dans le moment dans lequel on est. Et donc, si le gouvernement a les yeux rivés sur les sondages et pense qu'il va gouverner au sondage, il se trompe. Il y a une colère qui s'est installée dans le pays avec une défiance réelle. Et la défiance, elle est liée à quoi ? C'est que personne ne comprend rien, puisqu'on ne nous explique rien. Et à chaque fois, ce qu'on nous dit, c'est « si vous obéissez pas, attention, vous allez prendre une amende ». Voilà, on ne comprend rien, il n'y a pas de stratégie. La logistique est toujours désastreuse sur la manière dont les choses se passent. Donc la colère, elle monte. La première fois, les gens se sont dit « l'erreur est humaine ». Bon, donc on, évidemment, ils étaient pris par surprise, etc. Mais la deuxième fois, les gens se disent « persévérer, c'est diabolique
». Je connais ça.
Quand même, oui, juste pour tempérer un petit peu la colère qui monte, etc. Il y a quand même plus de 100 milliards qui ont été dégagés pour soutenir les commerces, pour soutenir les entreprises, le chômage partiel. Les distributeurs ont mis 100 000 personnes au chômage partiel. Donc, ce n'est pas souhaitable. Mais je veux dire, l'État est quand même là pour aider les entrepreneurs, les entreprises à passer cette crise. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, quand même.
Justement, ça me permet justement de me trouver dans une position qui, normalement, n'est pas la mienne. Les gens ne veulent pas être assistés. Les gens
non, bien sûr. Mais je veux dire, ils pourraient aussi ne rien être du tout. Ils pourraient juste devoir fermer boutique avec aucune aide du gouvernement.
De personnes que je connais, ils disent « Mais nous, on ne veut pas arrêter votre système d'assistanat ou de nous mettre sous perfusion. Nous, on veut travailler. On veut pouvoir travailler. » Alors, il y a des choses qui... Écoutez, regardez l'Ubuesque. Vous allez dans un quartier de Paris, vous allez voir 7 boutiques G20, Lidl, etc., qui sont ouverts, et le petit distributeur, lui, le petit vendeur, il est fermé. Il dit, mais c'est pas logique. Excusez-moi, c'est pas logique. Or, l'ensemble du dispositif, il est comme ça. Il est comme ça, vous savez pourquoi ? Parce que je ne sais pas où les décisions sont prises. Il y a un comité qui se réunit, qui est un comité occulte, qui n'est contrôlé par personne. Ouais. Et des professeurs de médecine qui disent tout et son contraire suivant le moment.
Alors ça y est, Julien Drey se lâche, 18h55.
Non, je ne lâche pas. Des choses... Allez, venez avec moi dans la rue, vous allez entendre la même chose que mon président.
Il y a le conseil
dis.
Scientifique, le conseil de défense.
Non, mais le conseil de défense, vous savez qui le compose, vous ? Vous êtes capable de dire qui sont les gens du conseil de défense ?
Les membres pour partie du gouvernement.
Ah ouais, d'accord. Bah, normalement, en République. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle l'Assemblée nationale.
Il y a un débat qui a été mené à l'Assemblée nationale.
Si vous permettez, non, il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. Justement, il y a
une consultation.
Non, il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, si elle devait débattre, il y aurait une commission spéciale. Les ministres y viendraient toutes les semaines rendre compte. Même pendant la guerre, il y avait ça. Il n'y a pas ça aujourd'hui.
Bien. 18h56, ça y est, on a mis Julien Drey en colère. Merci mon cher Julien d'être venu sur le studio et le plateau d'Europe 1. Merci Charles Villeneuve, merci Elsa Conessa. 18h56, on se retrouve dans quelques secondes avec le journal et le débat du Club des Idées. On parlera, tiens, justement d'Amazon. Faut-il en avoir peur ? À tout de suite.